Chapitre 36. C'était un anniversaire surprise à Hampden pour Marcia, une amie de Blaine.
Bon anniversaire, Marcia!
S'exclama Ifemelu en chœur avec les autres invités, à côté de Blaine. Sa langue un peu contrainte dans sa bouche, son enthousiasme un peu forcé. Elle était avec Blaine depuis un peu plus d'un an, mais elle ne faisait pas encore tout à fait partie de son cercle d'amis.
Espèce de faucheton,
dit Marcia à son mari Benny en riant les larmes aux yeux. Marcia et Benny enseignaient tous les deux l'histoire. Ils venaient du sud et se ressemblaient, assez petits, la peau couleur miel et des tresses effleurant leur cou. Ils répandaient leur amour comme un parfum entêtant, affichant un attachement transparent, se touchant l'un l'autre, se référant l'un à l'autre. À leur vue, Ifemelu imaginait une vie semblable avec Blaine, dans une petite maison d'une rue tranquille, des batiks accrochés au mur, des sculptures africaines menaçantes aux angles des pièces, tous les deux passant leur existence dans un bourdonnement de bonheur. Benny servait à boire. Marcia allait de l'un à l'autre, encore sous l'effet de la surprise. Contemplant les plateaux du traiteur posés sur la table de la salle à manger, puis levant les yeux vers les ballons qui dansaient au plafond.
Quand as-tu fait tout ça, chérie? Je ne suis sortie qu'une heure.
Elle prit tout le monde dans ses bras, essuyant ses larmes. Avant de serrer Ifemelu contre elle, son expression refléta un instant d'inquiétude, et Ifemelu comprit que Marcia avait oublié son prénom.
Je suis tellement ravie de vous revoir. Merci d'être venue,
dit-elle avec un accent exagéré de sincérité, en appuyant sur le tellement, comme pour se faire pardonner d'avoir oublié le prénom d'Ifemelu.
« Coquin !»
dit-elle à Blaine, qui l'embrassait en la soulevant dans ses bras.
« Tu es plus légère que lors de ton dernier anniversaire !»
dit Blaine.
« Et elle rajeunit tous les jours !»
ajouta Paula, l'ex-petite amie de Blaine.
« Marcia, allez-vous mettre votre secret en bouteille ?»
demanda une femme qu'Ifemelu ne connaissait pas, dont les cheveux décolorés bouffaient comme un casque de platine.
Son secret est une vie sexuelle réussie,
dit sérieusement Grace, une Américaine d'origine coréenne qui enseignait la civilisation afro-américaine, petite et mince, toujours habillée d'élégants vêtements amples, ce qui la faisait paraître flotter dans un bruissement de soie.
Je suis un oiseau rare, une dingue chrétienne de gauche,
avait-elle dit à Ifemelu la première fois qu'elle s'était rencontrée.
« As-tu entendu ça, Benny ?»
demanda Marcia.
« Notre secret est une vie sexuelle réussie !»«
C'est tout à fait vrai !»
dit Benny, et il cligna de l'œil à son intention.
« Hé, quelqu'un a-t-il entendu la déclaration d'Obama ce matin ?»«
Oui, les infos en ont parlé toute la journée !»
dit Paula. Elle était petite et blonde, et avait le teint clair et rose d'une habituée du grand air, débordante de santé. Et Ifemelu se demanda si elle montait à cheval.
« Je n'ai même pas la télévision, » dit Grace avec un soupir navré. « J'ai récemment renié mes principes et acheté un téléphone portable. »«
Ils la repasseront, » dit Benny.
« Mangeons !»
C'était Sterling, le type fortuné dont Blaine lui avait dit qu'il appartenait à une vieille famille de Boston, grâce à quoi son père et lui avaient été étudiants prioritaires à Harvard. Il était sympathisant de gauche, plein de bonnes intentions, imbibé par la conscience de ses nombreux privilèges. Il ne se permettait jamais de manifester une opinion.
« Oh, je vois ce que vous entendez par là !»
disait-il souvent. Avec force, compliments et bouteilles de vin, on fit honneur au buffet, au poulet frit, aux légumes et aux quiches. Ifemelu se servit de minuscules portions, contente d'avoir mangé quelques noix avant leur départ. Elle n'aimait pas la cuisine du Sud.
« Je n'ai pas mangé d'aussi bon pain de maïs depuis des années !»
dit Nathan à côté d'elle. Professeur de littérature, névrosé et bigleux derrière ses lunettes, c'était la seule personne à Yale en qui Blaine disait avoir toute confiance. Quelques mois plus tôt, il avait confié à Ifemelu qu'il ne lisait aucun roman publié après 1930.
Tout a foutu le camp après les années 30.
Ifemelu en avait parlé par la suite à Blaine, avec un ton agacé, presque accusateur, ajoutant que les universitaires n'étaient pas des intellectuels.
dépourvus de curiosité, indifférents. Ils dressaient leur tente de savoir spécialisée et restaient en sécurité à l'intérieur. Blaine avait dit
« Oh, Nathan a ses marottes, ça n'a rien à voir avec l'université. »
Blaine se montrait depuis peu sur la défensive quand il parlait de ses amis, peut-être parce qu'il devinait qu'elle était mal à l'aise en leur compagnie. Quand elle assistait à une conférence avec lui, il ne manquait jamais de dire que cela aurait pu être mieux ou que les 10 premières minutes avaient été ennuyeuses, comme pour prévenir ses critiques. La dernière conférence à laquelle ils avaient assisté était celle qu'avait donnée Paula, l'ex-petite amie de Blaine, dans une université de Middletown. Paula, debout devant la salle, en robe portefeuille vert foncé et bottines, la parole fluide et convaincante, provoquant et charmant son auditoire. Le portrait de la jeune et jolie politologue destinée à faire une carrière politique. Elle avait souvent tourné son regard vers Blaine pendant qu'elle parlait, comme une étudiante mesurant à son expression la qualité de son intervention. Blaine hochait la tête. À un moment, il avait soupiré bruyamment, comme si les mots qu'elle prononçait lui révélaient quelque chose d'exquis et de familier. Ils étaient restés bons amis, Paula et Blaine, fréquentant le même cercle après que Paula l'avait trompé avec une femme également nommée Paula, que l'on appelait depuis « Pi » afin de les distinguer l'une de l'autre. Notre relation battait de l'aile depuis un certain temps. Elle disait qu'il s'agissait seulement d'une expérience avec Pi, mais je savais qu'il y avait davantage. Et j'avais raison, car elles sont toujours ensemble. Avait expliqué Blaine à Ifemelu, à qui toute cette histoire paraissait trop aimable, trop polie. Même l'amitié que Paula lui manifestait semblait exagérément lisse. « Si nous l'abandonnions et allions prendre un verre ?» avait proposé Paula à Ifemelu ce soir-là, après sa conférence, les joues en feu, tout excitée et soulagée de s'en être bien tirée.
« Je suis épuisée !»
avait répondu Ifemelu.
Et je dois préparer mon cours de demain, avait dit Blaine. Faisons quelque chose ce week-end, d'accord?
Et il lui dit bonsoir en l'embrassant.
Ce n'était pas si mal, non?
Demanda Blaine à leur retour à New Haven. J'ai cru que tu allais avoir un orgasme, dit-elle. Blaine éclata de rire. Elle avait pensé, en le regardant parler, que Paula s'accordait parfaitement au mode de vie de Blaine, contrairement à elle, et elle en avait à présent la confirmation en observant Paula se resservir pour la 3e fois de chou vert, assise près de son amie Pi, et riant de quelque chose que Marcia venait de dire. La femme au casque de cheveux platine mangeait son chou vert avec les doigts.
« Nous autres humains ne sommes pas censés manger avec des ustensiles, » dit-elle.
Michael, assis à côté d'Ifemelu, poussa un grognement.
« Je me demande pourquoi tu ne vis pas dans une grotte !»
dit-il. Et tout le monde s'esclaffa, mais Ifemelu n'était pas certaine que ce soit une plaisanterie. Il ne supportait pas ses simagrées. Elle le trouvait séduisant, avec ses tresses appliquées le long de son crâne et son air ironique, faisant fi de toute sentimentalité. « C'est un chic type, mais il s'efforce tellement de rester réaliste qu'il en arrive parfois à paraître négatif. » avait dit Blaine, quand elle avait rencontré Michael. Il avait fait de la prison à 19 ans pour vol de voiture avec violence et disait volontiers
« Certains noirs n'apprécient l'éducation qu'après avoir fait de la prison. »
Il était photographe, bénéficiait d'une bourse. Et la première fois qu'Ifemelu avait vu ses photographies en noir et blanc, pareilles à des ombres dansantes, elle avait été surprise par leur délicatesse et leur aspect vulnérable. Elle s'était attendue à des images plus dérangeantes. Une de ses photos était maintenant accrochée dans l'appartement de Blaine, en face du bureau qu'elle utilisait. De l'autre côté de la table, Paula demanda «
Vous ai-je dit que je demande à mes étudiants de lire votre blog, Ifemelu ?» C'est étonnant de voir à quel point leur pensée est conventionnelle et je veux les pousser à en sortir. J'ai adoré votre dernier post. Conseils amicaux à un Américain non noir. Comment réagir devant un noir américain qui parle de négritude?
C'est drôle comme titre, dit Marcia. J'aimerais beaucoup le lire.
Paula sortit son téléphone, le manipula et lut à haute voix. Cher Américain non noir, si un Américain noir te raconte une expérience vécue par un noir,
Je t'en prie, ne t'empresse pas de citer des exemples tirés de ta propre expérience. Ne dis pas « c'est exactement comme lorsque j'ai… » Tu as souffert. Tout le monde sur Terre a souffert. Mais tu n'as pas souffert du fait que tu es noir américain. Ne trouve pas des explications alternatives à ce qui est arrivé. Ne dis pas « oh, ce n'est pas la race, c'est l'origine sociale. Oh, ce n'est pas la race, c'est le genre. Oh, ce n'est pas la race, c'est le monstre dans les paquets de céréales. » Tu vois, en fait, les Noirs américains ne veulent pas que ce soit la race. Ils aimeraient mieux qu'il n'existe aucun putain de problème racial. Donc, lorsqu'ils disent que quelque chose est dû à la race, peut-être est-ce vraiment le cas. Ne dis pas « je ne vois pas la couleur ». Parce que si tu ne vois pas la couleur, c'est que tu es daltonien, que tu as besoin de voir un médecin et que lorsqu'apparaît à la télévision un noir soupçonné d'un crime dans ton voisinage, tout ce que tu vois est une silhouette floue d'un violet grisâtre. Ne dis pas « on en a assez de parler de race » ou « la seule race est la race humaine ». Les Noirs américains, eux aussi, en ont marre de parler de race. Ils préféreraient ne pas y être obligés. Mais les conneries continuent. Ne commence pas par répondre « un de mes meilleurs amis est noir » parce que cela ne fait aucune différence, que tout le monde s'en fout et que tu peux avoir un meilleur ami noir et être néanmoins raciste. Et ce n'est sans doute pas vrai de toute façon. C'est peut-être un ami, mais pas un meilleur ami. Ne dis pas que ton grand-père était mexicain et que tu ne peux donc pas être raciste. Clique ici pour en savoir plus sur « Il n'y a pas de Ligue unie des opprimés ». Ne parle pas des souffrances de tes grands-parents irlandais. Bien sûr, l'establishment américain les a bien fait chier aussi, tout comme les Italiens et comme les Européens de l'Est. Mais il y avait une hiérarchie. Il y a un siècle, les ethnies blanches détestaient qu'on les déteste, mais c'était à peu près supportable parce que les Noirs étaient plus bas sur l'échelle. Ne dis pas que ton grand-père était un serf en Russie à l'époque de l'esclavage, car ce qui compte, c'est que tu es américain aujourd'hui. Et être américain signifie que tu prends tout le bordel, l'actif et le passif de l'Amérique. Et Jim Crow pèse lourdement dans le passif. Ne dis pas « c'est comme l'antisémitisme ». Ce n'est pas vrai. Dans la haine des Juifs, il peut y avoir de l'envie. Ils sont si malins, ces Juifs, ils contrôlent tout, ces Juifs. Et on peut dire qu'un certain respect, même s'il est teinté de rancœur, accompagne l'envie. Dans la haine des Noirs américains, il ne peut pas y avoir d'envie. Ils sont si paresseux, ces Noirs, ils sont si stupides, ces Noirs. Ne dis pas « oh, le racisme, c'est fini. L'esclavage, c'était il y a belle lurette. » Nous parlons de problèmes des années 1960, pas de 1860. Si tu rencontres un vieux Noir originaire de l'Alabama, il se souvient sans doute du temps où il devait descendre du trottoir, parce qu'un blanc passait au même moment. J'ai acheté une robe vintage sur eBay l'autre jour, datant de 1960, en parfait état et que je mets souvent. Quand sa propriétaire la portait, les Noirs américains n'avaient pas le droit de vote, parce qu'ils étaient noirs. Et peut-être la propriétaire était-elle une de ces femmes sur la célèbre photo sépia, massée devant les écoles en criant « singe » à des petits-enfants noirs parce qu'elle refusait qu'ils aillent en classe avec leurs petits-enfants blancs. Où sont ces femmes aujourd'hui? Dorment-elles sur leurs deux oreilles? Pensent-elles à l'époque où elles criaient « singe » Pour finir, ne prends pas un ton « soyons objectifs » en disant « les noirs sont racistes eux aussi ». Car il est vrai que nous avons tous des préjugés. Il m'arrive même de détester certains membres de ma famille, des gens avides, égoïstes. Mais le racisme est lié au pouvoir d'un groupe. Et en Amérique, ce sont les Blancs qui ont ce pouvoir. Comment? Eh bien, les Blancs ne sont pas traités comme de la merde par les classes supérieures afro-américaines. Les Blancs ne se voient pas refuser des prêts bancaires ou des hypothèques uniquement parce qu'ils sont Blancs. Les jurys noirs n'appliquent pas aux criminels blancs des peines plus lourdes qu'aux criminels noirs pour des crimes identiques. Les policiers noirs n'arrêtent pas les blancs au volant de leur voiture. Les entreprises noires ne refusent pas d'engager quelqu'un parce que son nom a une consonance blanche. Les enseignants noirs ne disent pas aux écoliers blancs qu'ils ne sont pas assez intelligents pour devenir médecins. Les politiciens noirs n'inventent pas des stratagèmes destinés à réduire les possibilités de vote des blancs en manipulant les règles électorales. Les agences de publicité ne disent pas qu'elles ne peuvent pas utiliser des mannequins blanches pour promouvoir des produits de luxe sous prétexte qu'elles ne représentent pas l'image du chic aux yeux du grand public. Alors, après cette série de choses à ne pas faire, quelles sont les choses à faire? Je n'en sais rien. Essaye d'écouter, peut-être. Écoute ce qui est dit. Et souviens-toi que ce n'est pas toi qui es en cause. Les Noirs américains ne disent pas que c'est ta faute. Ils décrivent seulement ce qui est en faute. Si tu ne comprends pas, pose des questions. Si poser des questions te met mal à l'aise, dis-le et pose-les quand même. On voit facilement si une question part d'une bonne intention. Puis écoute encore davantage. Parfois, les gens ont seulement envie d'être entendus. À l'amitié, aux connexions et à la compréhension. Marcia dit « J'aime beaucoup le passage sur la robe. »
« C'est moyennement drôle, » dit Nathan.
« Vous devez ramasser un fric fou pour vos interventions inspirées de ce blog. » dit Michael. La plus grande part va à ma famille affamée au Nigeria, répliqua Ifemelu.
Ce doit être réconfortant d'avoir ça,
dit-il. D'avoir quoi?
D'avoir des ancêtres remontant à des temps anciens, de savoir d'où vous venez, ce genre de choses.
En effet, dit-elle. Il lui lança un regard qui l'embarrassa, car elle n'était pas certaine de sa signification. Puis il détourna les yeux. Blaine disait à l'ami de Marcia, au casque de cheveux platine, « Nous devons dépasser ce mythe. Il n'y a rien de judéo-chrétien dans l'histoire de l'Amérique. Personne ici n'a jamais aimé les catholiques et les juifs. Ce sont des valeurs anglo-protestantes, pas judéo-chrétiennes. Même le Maryland a vite cessé d'être favorable aux catholiques. »
Il s'arrêta brusquement, sortit son téléphone de sa poche et se leva.
« Excusez-moi, les amis, » dit-il, et baissant la voix à l'intention d'Ifemelu. « C'est Shan, je reviens tout de suite. »
Et il alla dans la cuisine pour répondre à l'appel. Benny alluma la télévision et ils regardèrent Barack Obama, grand et mince, dans un manteau noir presque trop large pour lui, l'air un peu hésitant. Tandis qu'il parlait, des bouffées de vapeur s'échappaient de sa bouche comme de la fumée dans l'air froid.
« Et c'est pourquoi ?» À l'ombre du Old State Capitol, où jadis Lincoln appela une assemblée divisée à se rassembler, où vivent toujours des espoirs communs et des rêves communs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer ma candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique.
Je n'arrive pas à croire qu'il soit parvenu à le persuader, dit Grace. Ce type a du potentiel, mais il doit mûrir d'abord. Il a besoin d'acquérir du poids. Il va ruiner la cause des Noirs parce qu'il sera loin du compte. Et aucun Noir ne pourra plus se présenter dans ce pays pendant 50 ans.
« Il me remonte le moral !» dit Marcia en riant. « J'adore ça ! L'idée de construire une Amérique où il y a davantage d'espoir !»«
Je pense qu'il a une chance, » dit Benny. « Oh, il ne peut pas gagner. Il se fera descendre avant, »
dit Michael.
C'est tellement rafraîchissant de voir un homme politique qui sait trouver le ton,
dit Paula.
Oui,
dit Pi. Elle avait des bras minces, inhabituellement musclés, des cheveux coupés très courts et un air terriblement anxieux. C'était le genre de personne dont l'amour devait vous étouffer.
Il a l'air si intelligent. Il s'exprime si clairement.
Tu parles comme ma mère,
dit Paula d'un ton irrité. Comme si elle poursuivait une ancienne querelle, que ses mots signifiaient autre chose. Qu'y a-t-il de si remarquable dans le fait qu'il s'exprime facilement?
Tu as un problème d'hormones, Polly? Demanda Marcia.
C'est sûr, dit Pi.
Est-ce que tu as remarqué qu'elle a mangé tout le poulet frit?
Paula ignora Pi et, comme par défi, prit une autre tranche de tarte au potiron.
Que pensez-vous d'Obama, Ifemelu?
Demanda Marcia.
Ifemelu devina que Benny ou Grace lui avait soufflé son nom et qu'à présent Marcia était impatiente de révéler son nouveau savoir.
« J'aime bien Hillary Clinton, » dit Ifemelu.
Je ne sais rien de cet Obama.
Blaine revint dans la pièce.
Qu'ai-je raté?
Shan va bien?
Demanda Ifemelu. Blaine hocha la tête.
Ce que nous pensons d'Obama ne compte pas. Ce qui compte, c'est de savoir si les Blancs sont prêts à avoir un président noir,
dit Nathan.
Je suis prête, dit Pi. Mais je ne crois pas que le pays le soit.
Sans blague. Tu en as parlé à ma mère?
Lui demanda Paula.
Elle dit exactement la même chose. Si vous êtes prêt pour un président noir, alors qui ne l'est pas dans ce pays? Ce sont les mots qu'emploient ceux qui n'arrivent pas à dire qu'ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, même l'idée d'être prêt est ridicule.
Ifemelu emprunta ces mots des mois plus tard, dans un post écrit pendant la phase finale et acharnée de la campagne présidentielle.
Même l'idée d'être prêt est ridicule.
Quelqu'un se rend-il compte à quel point il est absurde de demander aux gens s'ils sont prêts à avoir un président noir? Êtes-vous prêt à voir Mickey devenir président? Pourquoi pas Kermit la grenouille et Rudolf le petit renne au nez rouge?
Ma famille est de parfaites références de gauche. Nous avons coché toutes les bonnes cases, dit Paula avec une moue ironique, tournant son verre à vin entre ses doigts.
Mes parents ne rataient jamais une occasion de dire à leurs amis que Blaine était à Yale. Comme s'il était l'un des rares à être acceptable.
Tu es trop dur envers eux, Paula, dit Blaine.
Non, pas vraiment, tu n'es pas de mon avis. Souviens-toi de cet horrible Thanksgiving.
Tu veux dire quand j'ai demandé du gratin de macaroni?
Paula éclata de rire.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
Mais elle ne dit pas de quoi il s'agissait. Et le souvenir ne fut pas dévoilé, demeura un secret entre eux. De retour chez Blaine, Ifemelu dit « J'étais jalouse. » Car c'était bien de la jalousie, ce sentiment de gêne, ces tiraillements d'estomac. Paula avait tout d'une véritable idéologue. Elle pouvait, imaginait Ifemelu, glisser facilement dans l'anarchie, prendre la tête de manifestation, défier les matraques de la police et les lazzi des incroyants. À cette pensée, on se sentait inapte en comparaison.
« Il n'y a rien dont tu puisses être jalouse, Ifem, » dit Blaine.
« Le poulet frit que tu manges n'est pas le poulet frit que je mange. C'est le poulet frit de Paula. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»«
Pour Paula et toi, le poulet frit est pané. Pour moi, le poulet frit n'est pas pané. Je pensais seulement à tout ce que vous avez en commun. »«
Nous avons le poulet frit en commun ? Te rends-tu compte à quel point le poulet frit est une métaphore chargée de signification dans ce pays ?»
Blaine riait, un rire doux, affectueux.
Ta jalousie est délicieuse, mais il n'y a aucune chance qu'il se passe quelque chose entre elle et moi.
Elle savait qu'il n'y avait rien. Blaine ne la tromperait pas. Il était trop bardé d'honnêteté. La fidélité ne lui pesait pas. Il ne se retournait pas sur les jolies femmes dans la rue parce que cela ne lui venait pas à l'idée. Mais elle était jalouse des traces d'émotion qui subsistaient entre Paula et lui. À la pensée que Paula était comme lui, aussi bonne qu'il l'était.
Voyager quand on est noir.
Un ami d'amis, un noir américain sympa et bourré de fric, est en train d'écrire un livre intitulé « Voyager quand on est noir ». Pas simplement noir, dit-il, mais noir de manière flagrante, parce qu'il y a toutes sortes de noirs, et sans vouloir les offenser, il ne parle pas de ces noirs qui ont l'air de portoricains ou de brésiliens ou de ce que vous voudrez. Il parle de ceux qui sont indiscutablement noirs. Parce que le monde vous traite différemment. Voilà ce qu'il dit. J'ai eu l'idée d'écrire ce livre en Égypte. J'arrive au Caire et un arabe égyptien me traite de barbare noir. Je me dis, putain, je suis censé me trouver en Afrique. Alors je me suis mis à penser à d'autres parties du monde. Me demandant à quoi ça ressemblerait d'y voyager quand on est noir. Je suis aussi noir qu'on peut l'être. Les Blancs du Sud aujourd'hui me regarderaient en se disant « Tiens, voilà un grand étalon noir !» On vous dit dans les guides comment vous comporter si vous êtes homo ou une femme. Merde ! Ils devraient en faire autant pour les Noirs. Disons donc à nos amis voyageurs noirs à quoi ils doivent s'attendre. Personne naturellement ne va vous descendre. Mais mieux vaut savoir que vous avez des chances d'être regardé comme une bête curieuse. Dans la forêt noire allemande, les regards étaient plutôt hostiles. À Tokyo et à Istanbul,
tout le monde était cool et indifférent. À Shanghai, les regards étaient appuyés. À Delhi, déplaisant. J'ai pensé, bon, sommes-nous tous logés à la même enseigne? Nous tous, les gens de couleur. J'ai lu que le Brésil était la Mecque de la race. Je vais à Rio et il n'y a personne qui me ressemble dans les restaurants chics et les bons hôtels. Les gens font une drôle de tête quand je me dirige vers la file des premières classes à l'aéroport. Gentiment amusé, comme si je faisais une erreur. Impossible qu'il ait cette tête et voyage en première. Je vais au Mexique et tout le monde me regarde. Sans hostilité, mais vous avez l'impression d'être différent. Un peu comme s'il vous aimait bien, mais que vous étiez quand même toujours King Kong. Et à ce point, mon professeur Hunk dit « L'Amérique latine dans son ensemble a une relation vraiment compliquée à la négritude. Une relation brouillée par cette histoire de « nous sommes tous mestizos » qu'il se raconte. Le Mexique n'est pas aussi détestable que des endroits comme le Guatemala et le Pérou, où le privilège des Blancs est bien plus criant. Mais ces pays ont une population noire beaucoup plus conséquente. Un autre ami nous dit « Les Noirs autochtones sont toujours plus maltraités que les Noirs non autochtones partout dans le monde. » Mon ami qui est né et a été élevé en France de parents togolais prétend être anglophone quand elle va faire des achats à Paris parce que les vendeurs sont beaucoup plus aimables avec les clients noirs qui ne parlent pas français. Tout comme les Noirs américains, sont traités avec respect dans les pays africains. Des idées? N'hésitez pas à partager vos propres histoires de voyage.